Ah, j'ai le privilège de pouvoir ôter mon masque. Moi seul. Eh bien, bonjour, je vous propose de continuer notre série sur les valeurs que nous avons commencé il y a maintenant un mois. Et avec Luc, on a déjà vu quelques valeurs. Si vous vous souvenez, si vous étiez là, si vous avez écouté, la première fois c'était sur le respect, le pardon, l'amour inconditionnel au travers du livre de Philémon. Et ensuite, il nous a parlé de la foi éprouvée. Quant à moi, la semaine passée, je vous ai parlé de la compassion. La valeur de cette semaine est un petit peu particulière en ce sens que Luc et moi, nous avions choisi de prêcher sur la même valeur, et ça sans nous concerter. Alors ça s'est un peu passé comme ça, j'ai dit, ben voilà, j'aimerais parler sur la compassion la semaine prochaine, puis après, la suivante, si des fois tu n'es pas disponible, sur... Puis il me dit, mais c'est exactement ce que je voulais faire, je voulais aussi prêcher là-dessus. Donc voilà, j'ai gagné. J'aimerais vous parler aujourd'hui sur l'intégrité, qui est une valeur chère aux yeux de Dieu, mais aussi chère à nos cœurs, à nous. Le mot intègre vient du latin integer, qui veut dire entier, intact. Et puis si on regarde ce que l'hébreu et le grec biblique nous disent, elle lui donne plutôt en complément le sens d'être droit, d'être honnête, d'être incorruptible, d'être transparent. Ça veut dire qu'on n'a rien à cacher. Notre vie est transparente, qui reste fidèle à ses principes, non pas par devoir, parce qu'on doit le faire, parce que c'est une loi, mais on reste fidèle à ses principes par amour envers Dieu, parce que le chrétien le veut, il veut rester intègre. L'intégrité, c'est une valeur d'adulte, ce n'est pas une valeur d'enfant, parce qu'elle comprend le fait de connaître les commandements, les concepts de l'éthique, mais aussi de pouvoir les mettre en pratique d'une façon sciente et sans les détourner ou les manipuler à son propre intérêt. Être intègre, c'est donc être fidèle à ce que l'on croit sans jamais aller à l'encontre de ces mêmes principes. Depuis 1984, un pays africain, la Haute-Volta, a changé son nom pour s'appeler le Burkina Faso. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que le Burkina Faso vient faire dans ta prédication ? Eh bien, ce nom est composé de deux mots issus des deux dialectes majoritaires du pays. Et il signifie littéralement le pays des hommes intègres, le Burkina Faso. Ce nom a été donné pour montrer la volonté de réduire la corruption à toutes les sphères de la société du pays. Et on leur souhaite bien du courage pour que ce soient des vrais Burkinabés, c'est-à-dire des hommes intègres. Et je me dis qu'au-delà de ce pays, nous tous en tant que chrétiens, nous sommes des Burkinabés. Nous sommes des hommes et des femmes intègres. Tiens, à propos de personnes intègres, est-ce que vous pourriez me citer comme ça des gens dans la Bible qui étaient intègres ? Oui, bien sûr, vous allez me dire, il y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines, et vous auriez raison. Mais que, bien qu'il y en ait de nombreux qui pourraient venir à notre esprit, il y en a uniquement trois dans l'Ancien Testament dans lequel la Bible, ou par lequel la Bible dit, ces hommes étaient intègres. Et ces trois personnages, on les connaît tous, qu'on soit versé dans les Écritures ou un petit peu éloigné des Églises, c'est des personnes dont le nom c'est Noé, c'est Job et Abraham, des personnes qui sont connues de tous, petits et grands. D'abord Noé. La Bible rend de lui ce témoignage en Genèse 6-9, en disant « Noé était un homme juste et intègre parmi ses contemporains » et la fin du verset dit ceci « Noé marchait avec Dieu ». On cherche souvent à gommer les différences entre les gens afin qu'ils pensent et fassent la même chose que nous. J'aime ce simple verset qui montre un Noé différent de ses contemporains, différent dans sa manière d'agir, différent dans sa manière de vivre, une sorte de jusqu'au boutiste dans ses convictions les plus profondes. Dans le texte hébreu, il est écrit littéralement « Noé était un homme juste et intègre dans ses générations ». Il n'était pas intègre que pendant quelque temps, ce qui était déjà un exploit, croyez-nous. Non, il était intègre continuellement durant toute sa vie, durant toutes les générations qui lui ont succédé et par lesquelles il a vécu, durant toutes les saisons de sa vie, les belles saisons, les moins belles. Et il en a eu des saisons, puisque Genèse 9, 28 nous apprend que Noé est mort à 950 ans. Ouh. On comprend mieux cette parole, Noé était un homme intègre parmi ses générations, ou dans les générations successives qu'il a pu vivre. Le secret d'une intégrité constante nous est donné par la fin du verset. C'est parce qu'il marchait avec Dieu, c'est-à-dire que parce que Dieu était le guide de sa vie, qu'il pouvait rester intègre. Il aurait pu faire sien ce verset de Salomon qu'on trouve dans les Proverbes 23-26, bien sûr il ne pouvait pas parce qu'il n'était pas encore né, mais je suis sûr, et vous aussi, qu'il aurait dit « Ah ben c'est exactement ça ma vie », ce verset qui dit « Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies ». Et c'est vraiment ça, être intègre. Noé, on va laisser Noé son arche, et puis nous allons nous arrêter un petit peu plus à Job. Tout le monde connaît Noé. Tout le monde connaît aussi Job, puisqu'il est particulièrement célèbre pour sa pauvreté, puisque de langage commun, maintenant, on dit « pauvre comme Job », des choses que vous avez certainement déjà tous entendues. Mais Job, c'est aussi un personnage de la Bible. Et puis, dans ce livre, dans le premier verset du premier chapitre, il est dit, Job 1.1, donc, « Il y avait un homme dans le pays d'Outz, un homme dont le nom était Job. Cet homme était intègre et droit. » Il craignait l'Éternel et s'éloignait du mal. Et nous avons le privilège de bien connaître son histoire. C'est un homme riche qui va absolument tout perdre et qui va pourtant rester fidèle à ses principes. Il va rester fidèle à sa foi, à ses valeurs. Un homme sans compromis, sans arrangement, une vie transparente, intègre, qui honore Dieu. Et malgré l'épreuve qu'il a pu vivre, perdre tous ses enfants, tous ses biens, toutes ses possessions et même la santé, le deuil, la crise, l'incompréhension de ses amis aussi, devant tout ce qui lui est arrivé, il est demeuré ferme en continuant à faire confiance à Dieu, quoi qu'il se passe dans sa vie, et à s'éloigner du mal. C'est ce qu'on a chanté et prié tout à l'heure. Notre Dieu est un Dieu qui règne et on n'a pas à trembler. Et Dieu lui-même se fait l'écho un petit peu de la vie de Job, puisque dans Job 2:3, il dira « Il n'y a personne sur terre comme Job ». C'est un homme intègre et droit, et c'est Dieu qui parle, qui craint Dieu et s'écarte du mal, il demeure ferme dans son intégrité. Et sa femme va faire écho à ce passage dans Job 2, quand elle dira à son mari « Tu demeures ferme dans ton intégrité ». On peut se rendre compte que le fait d'être intègre n'est pas lié aux événements du moment, aux émotions. En tout cas, ça ne devrait pas l'être. Job, Noé, nous montrent au contraire qu'ils ont fait un choix. Ils ont choisi d'être droits. Ils ont choisi d'être intègres, quoi qu'il se passe dans leur vie, et ils en sont tenus à ce choix tout au long de leur vie. Noé, Job, Abraham maintenant. En Genèse 17, au premier verset, il est dit que lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, c'est une prédication peut-être pour les personnes âgées là, hein, 950 ans, 99 ans. Non, l'Éternel apparut à Abraham et dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre ». Malgré le fait qu'Abraham soit le père des croyants, il y a eu quelques épisodes dans sa vie, des épisodes majeurs, où il ne brillait pas du tout par son intégrité. Par exemple, je vais en citer deux, Abraham a accepté le compromis que lui proposait Sarah, son épouse, de coucher avec Agar, servante de son épouse, afin d'avoir une descendance. Abraham a voulu s'en sortir avec les coutumes du pays. C'était un petit peu sa porte de secours au lieu de faire confiance à Dieu dans la promesse que Dieu l'avait faite. Un autre épisode, plus tard, il va offrir sexuellement sa femme par deux fois des chefs d'État en affirmant qu'elle est sa sœur, cela au mépris de la pureté de son épouse, juste pour se sortir d'une situation difficile. Il pensait que si on savait qu'elle était son épouse, on allait tuer Abraham pour abuser de sa femme. Non, on ne peut pas vraiment dire qu'Abraham était un homme intègre et Dieu n'était pas dupe. Dans ce temps de corona, on pourrait dire que devant Dieu, Abraham était démasqué. Il voit bien en Abraham un homme fourbe, un homme trompeur, un homme traître, un homme intéressé. En écho à sa vie, le psaume 119, le verset 80, dira ceci: « Que mon cœur soit intègre dans tes prescriptions, afin que je ne sois pas couvert de honte. » Afin que je ne sois pas couvert de honte. Et cette honte, elle est palpable, elle est même très palpable. Abraham a dû avoir honte de son attitude, particulièrement quand ses mauvaises actions ont touché ses valeurs les plus profondes, et il a dû regarder sa femme d'une façon différente, avec certainement de la honte, quand il a vécu ce que nous avons dit tout à l'heure. Et cette honte, c'est comme une odeur qui nous colle à la peau et qui ne veut pas s'en aller. Elle est là, elle est tenace. On a honte de ce qu'on en a fait et rien ne peut chasser, ôter, enlever cette honte. Par contre, quand Dieu prend l'initiative de rencontrer Abraham, ce n'est pas pour le blâmer, ni pour l'humilier, mais pour le remettre à sa place, en vue de quelque chose de nouveau. Et cette rencontre va être absolument une charnière dans la vie d'Abraham. Il dira ceci: « Je suis le Dieu Tout-Puissant. C'est moi qui sais mieux que toi ce qui est meilleur pour ta vie, et mieux qu'un parent qui sait ce qu'il faut faire avec son jeune enfant. Dieu a le meilleur plan pour Abraham. Il le remet en course avec un ordre de marche. » Et je voyais un petit peu comme ces voitures un petit peu télécommandées qui avancent toutes seules, qui est bloquée par un meuble. Et puis l'enfant qui voit ça, il est attristé parce que sa voiture, elle ne roule plus. Et le papa reprend la voiture, elle le remet sur le parquet et la voiture peut continuer à rouler. Bien, c'est un petit peu ça que Dieu a fait avec Abraham. Il a repris Abraham, il l'a remis en course, et remis sur la route, pour qu'il puisse continuer à vivre, mais cette fois-ci dans le chemin de Dieu. Et lui dira: marche avec moi, et pas avec les modes, avec les modes du moment, avec les façons de faire qui t'arrangent bien. Et puis, chose qui était nouveau pour lui, Dieu lui dira: sois intègre, preuve qu'il ne l'était pas avant. Il lui dira: abandonne tes mauvaises façons de réagir et de faire, fais-moi confiance, relève la tête. Je veux te laver de cette honte qui te colle à la peau. Et ce mot d'ordre, c'est aussi le mot d'ordre pour aujourd'hui, pour notre génération. Marche avec moi et sois intègre. Mais la réalité, elle nous rejoint tellement rapidement. Même dans notre propre vie, notre intégrité a eu quelques manquements dans ma vie comme dans la vôtre. Bon, puis de toute façon, s'il y a seulement trois personnes dans l'Ancien Testament qui ont pu être intègres sur les milliers, les millions qui ont été dans ce temps-là, ce n'est pas si évident que ça. Alors, franchement, restons comme on est. Eh bien non, parce que intègre, c'est le plan de Dieu pour nous. Et il y a quand même un prix à payer pour que nous restions intègres. Je suis appelé à changer. Je suis appelé à me réformer, je suis appelé à abandonner, à détourner mes pas des compromis si tentants, quelque part à capituler devant la sainteté de Dieu. Quel programme on a à vivre de la part de Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est que si on est peut-être terrassé par ce programme qui semble exigeant, c'est que si Dieu le demande, il donne aussi les capacités de le rendre possible, puisque dans le psaume 41, verset 13, il nous a fait une promesse liée à la vie du psalmiste, et cette promesse, elle dit ceci: « Et moi, Seigneur, tu m'as soutenu dans mon intégrité. » Tu m'as soutenu dans mon intégrité. Dieu ne nous laisse pas tout seul à gérer notre intégrité, ou plutôt avec les défis qui y sont liés. Il nous aide, il nous console, il nous soutient, et particulièrement dans le cadre du Nouveau Testament, Jésus dira du Saint-Esprit qu'il viendra sur nous, qu'il sera notre conseiller. Le mot grec, c'est paraclète, qui veut dire notre avocat, notre conseiller, notre encourageur pour garder le cap. Il est vraiment à nos côtés pour faire de notre intégrité non pas un pieux vœu, mais une réalité. Et si nous chutons, il nous relève et nous permet de repartir à nouveau, lavés de notre honte, comme il l'a fait avec Abraham. C'est un petit peu aussi ce qui est arrivé dans ma vie. Alors je vais vous ouvrir, je suis vraiment démasqué, hein, je vais vous ouvrir un petit peu ma vie. Juste avant de terminer mon collège biblique en Belgique, j'ai besoin d'une nouvelle voiture. C'est très facile de tricher sur la TVA en Belgique quand on achète une voiture. Enfin, c'est une TVA qui est assez conséquente, en tout cas à l'époque c'était 25% du prix qu'on devait payer en plus. Et ce qu'on fait en Belgique, c'est qu'on fait une fausse facture. Voilà. Et puis on paie la TVA sur la facture amoindrie, et puis comme ça on vole l'État de la différence. Et je dois dire que j'ai succombé à cette tromperie, prétextant au Seigneur que je n'avais pas beaucoup d'argent. J'ai pu ainsi économiser 15 000 francs belges, alors ça ne nous dit plus grand chose maintenant qu'il y a l'euro, mais ça correspond à peu près à 600 francs suisses. Pour moi, c'était vraiment une somme importante tout au début de ma vie. Et quelques mois plus tard, alors que j'étais en prière suite à la lecture du livre de Malachie, je demandais à Dieu de me montrer mes péchés pour que je puisse grandir en sa présence. Ah, savez-vous, c'est dangereux de dire à Dieu: Seigneur, montre-moi mes péchés. Parce que Dieu va le faire. Et il l'a fait. Immédiatement, cet épisode de voiture, de TVA, m'est revenu à l'esprit. Alors bien sûr, j'ai demandé pardon à Dieu, mais je n'ai pas fait que ça. J'ai commencé à économiser, ce qui était pour moi une somme considérable, parce que je voulais vivre vraiment ce que ça voulait dire être intègre. Je voulais retrouver en tout cas cette intégrité que j'avais perdue. Donc après quelques mois d'économie, je suis parti au bureau de la TVA, et j'ai expliqué ma démarche au préposé en expliquant en détail ce qui m'est arrivé, en lui disant que j'étais chrétien. Je ne lui ai pas dit que j'étais pasteur. Chrétien, ça suffit. Et puis j'ai posé l'argent sur le bureau. La personne m'a dit qu'elle voulait en parler à son chef. Et puis cette personne est arrivée quelques moments après avec des gros yeux étonnés, en disant: mais qu'est-ce que c'est cet extraterrestre qui est dans ce bureau? Et puis j'ai dû lui redire toute mon histoire. Puis il m'a dit: écoutez, de toute ma carrière, c'est la première fois que je vois ça. Puis il me dit: vous savez, tout le monde fait ça en Belgique. J'ai dit: oui, mais moi j'ai été repris par Dieu, puis je veux réparer, je veux retrouver ma paix, je veux retrouver mon honnêteté. Puis il me dit: ah, vous êtes un saint. J'ai dit non, j'étais assez honteux, et je dis: oh, je suis tout du cas pas un saint, ça non. Puis il me dit: mais il y a un problème. Alors j'ai un peu blanchi, parce que je me voyais déjà un petit peu avec une amende et tout ça. Puis il m'a dit: il n'existe pas de formulaire pour ce genre de situation. Donc je suis embêté. Il me dit: écoutez, votre Dieu, il vous a absous? Il me dit: Puis je dis oui. Alors ce chef, il se lève, il me regarde et il me dit, eh bien moi, au nom de l'État belge, je vous absous. Et il m'a rendu l'argent. Je suis reparti heureux, léger, je volais presque, louant Dieu en ayant retrouvé mon intégrité et 15 000 francs belges dans ma poche. J'ai depuis toujours payé ma TVA que j'ai acheté en véhicule en Belgique. Ça, ce sont des expériences qui vont être différentes pour chacun, mais on a tous ce genre d'expérience de nos vies. Que ce soit lié à l'argent ou à d'autres situations, on a failli dans notre intégrité. Et on le sait. Et on se dit, mais voilà, Job, Noé, Abraham, c'est l'Ancien Testament. Qu'en est-il du Nouveau Testament? Parce que c'est quand même ça qui nous intéresse aussi. Alors les mots intègre, intégrité reviennent environ 50 fois dans la Bible, jamais dans le Nouveau Testament. Jamais. Est-ce que ça veut dire que l'intégrité, c'est plus du tout une valeur qui a sa place dans la Nouvelle Alliance? Mais pas du tout. Elle est au contraire, je dirais, sublimée par la venue de Jésus, parce que la vie du chrétien, c'est une vie intègre en elle-même. N'est-ce pas? Un chrétien, c'est un homme intègre. Regardez votre vie pour prouver que j'ai raison. Parce que chrétien, ça veut dire petit Christ, c'est refléter au quotidien la vie de Jésus, cet homme intègre dans toutes les situations. Non, le mot intègre ne se trouve pas dans le Nouveau Testament, mais plein de synonymes. On pourrait en rester des heures, j'aimerais lire juste un texte de Philippiens 2, le verset 14 et 15, qui nous dit ceci, et c'est un exemple, je dirais, parlant. « Faites tout sans murmure, ni discussion, pour être irréprochable. » Ça intègre. « Irréprochable et pur. » Pur, c'est aussi être intègre. Donc je vais reprendre. « Faites tout sans murmure, ni discussion, pour être irréprochable et pur, des enfants de Dieu sans reproche, au milieu d'une génération corrompue et perverse, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. » Je trouve ça extraordinaire, ces paroles. J'ai essayé de la transformer pour la mettre au goût du jour. C'est « Soyez intègres dans un monde désintégré. » C'est-à-dire qui n'est plus entier, qui a perdu ses valeurs, qui va à volo, qui est détruit. Soyez intègre dans un monde désintégré et faites la différence en montrant vos valeurs. Amen. Alors on va essayer de passer à la pratique. Oui, je ne tremblerai pas, hein, nous disait ce chant. Alors, on ne va pas trembler, mais pour vous aider, si vous n'avez pas d'idée, pour passer à la pratique, comment être un homme intègre, une femme intègre, j'aimerais vous laisser le psaume 15, pour que vous puissiez chez vous le méditer à votre aise et le relire. Et pour vous encourager à le lire, j'aimerais juste vous lire quelques extraits qui vont nous montrer vraiment cette vie de l'homme ou de la femme intègre qui plaît à Dieu. « Qui demeurera sur ta montagne sainte ?» commence ce psaume 15. « Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne se rétracte pas s'il fait un serment à son préjudice. Celui qui agit ainsi ne chancellera jamais. » Qu'avec ces quelques versets, on puisse se dire, moi j'ai envie de relire ce psaume 15 pour voir un petit peu ce que Dieu a à me dire dans ma vie, d'une façon personnelle, pour que je puisse, comme Abraham l'a entendu et vécu, ce que Dieu nous dit ce matin, c'est ceci, marche devant ma face et sois intègre. Et je vous propose que nous puissions vivre cette parole de la Bible. J'aimerais conclure en vous disant, et je ne peux pas m'empêcher de vous citer encore un dernier verset, pour moi, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau, c'est Proverbe 28, 10. Évidemment, je ne peux vous citer que des versets de l'Ancien Testament, vous avez bien compris. Hein. Ça commence pas bien, ça finit mieux. Celui qui égare les hommes droits, c'est-à-dire les hommes intègres, celui qui égare les hommes droits dans la mauvaise voie tombe dans la tombe qu'il a creusée, mais les hommes intègres héritent du bonheur. Si en plus, être intègre, il y a de la joie et du plaisir, alors c'est que du bonheur. Et je nous encourage à ne pas laisser la parole de Dieu passer à côté de notre vie aujourd'hui, mais à vraiment nous laisser captiver par sa parole, interpeller. Et je vous propose un temps de prière pour cela. Quand on considère notre vie, chacun, Seigneur, pour sa part, sans regarder celle du voisin, de notre conjoint, de notre enfant, d'un ami, notre vie, on se rend compte la difficulté qu'on a d'être intègre dans les différentes sphères de notre vie, que ce soit de notre famille, que ce soit dans notre lieu de travail. Cette parole retentit dans nos cœurs, marche devant ma face et sois intègre. Et Seigneur, ce matin je veux te dire oui, je veux être comme Abraham qui veut retrouver cette intégrité, qui veut être lavé de cette honte, qui veut jouir du bonheur qui est réservé à ceux qui sont intègres devant ta face. Ce matin Seigneur, je vais me lever à ma place pour te dire oui. Les gens ne connaissent pas forcément ma vie, mais toi tu la connais. Et je veux me lever en disant, moi je vais être intègre. Je veux réparer, restaurer. Je vais retrouver cette valeur qui est chère à ton cœur, mais qui est aussi chère au mien et qui pourtant était bafouée. Amen. Si c'est votre cas, si Dieu vous parle ce matin et vous dit, mon fils, ma fille, sois intègre, retrouve cette intégrité. Alors qu'on est toujours les yeux baissés, bien si Dieu vous parle, simplement vous levez, puis après vous asseyez, sans forcément rester longtemps, simplement pour montrer à Dieu votre volonté de reprendre un nouveau départ. C'est comme si vous dites, je me lève en te disant, me voici. Seigneur, viens gérer avec moi cette intégrité. Je veux repartir sur ton chemin. Voilà, je vois plusieurs qui se lèvent. Vous pouvez vous rasseoir sans que ce soit vraiment une vision pour les autres. On se lève, c'est personnel. Merci pour ceux qui se sont déjà levés. Dieu fait une œuvre dans nos cœurs. Ces valeurs, ce n'est pas simplement pour passer du temps ensemble. Mais c'est pour que Dieu puisse reconstruire ce qui est détruit en nous, façonner ce qui était déformé.